بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين إخواني في الله. On a démarré le septième juz hier. Mais comme hier, on s'était un peu attardé, le tafsir de la yuhibullahu al-jahara, on n'a pas pu enchaîner avec le début du septième juz. Donc là, on rattrape ce qui a été lu hier et on va essayer, inshallah, de ne pas trop s'attarder pour essayer d'aborder également le début du huitième juz, walau annana. Ce qui a été lu donc hier dans Wa'idha Sami'u, qui est dans la sourate Al-Ma'ida. De quoi parle ce verset? Alors, on récapitule. Hein, si on a tout bon, on peut avancer. Alif Lamim, qualité des croyants, foi en l'invisible. Sayakul Sufaha, changement de la Qibla, épreuve de la part d'Allah, pour avoir ceux qui obéissent, qui font istislam, qui se soumettent totalement aux ordres d'Allah et qui ont confiance aux ordres d'Allah. Tilka Rusulu, l'universalité de l'islam à travers l'iman bir. La foi sur les messagers alayhim salatu wassalam. L'antanal al-birra, encouragement à donner l'aumône, à venir en aide à son prochain et principalement donner de ce qu'on aime pour Allah. Faire passer l'amour d'Allah avant notre attachement pour les biens. Ça fait 4. Ce qui a été lu avant-hier, wal-muhsanatu minan nisa, verset en rapport avec les mariages qui sont interdits, et le début du cinquième juz, c'est pour rappeler qu'une femme qui est mariée, c'est une femme avec laquelle personne ne peut engager un contrat de mariage pour montrer le lien sacré du mariage. Et hier, la yuhibullah al-jahra bissou, interdiction de dire toute parole négative, toute chose qui est mauvaise, le mu'min se doit d'ordonner le bien et de dire que de bonnes paroles et éviter au maximum les paroles qui sont mauvaises, sauf dans une situation où il serait opprimé. Mais même ça, pardonner serait bien meilleur. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. Ce verset est en rapport avec, selon Ibn Kathir rahimahullah, selon As-Sa'di et selon d'autres mufassirin, ce verset est en rapport avec la visite et la rencontre du Najashi, le négus, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le négus? Sirat classe 3. Es-tu en classe 4. Qui était le négus? Ah, on verra demain, inshallah. An-Najashi, c'était un roi de quelle confession? De quelle tribu arabe appartenait An-Najashi? Quraysh? Hamdan? Banu Thaqif? An-Najashi était un roi chrétien. Était-il arabe? Aucunement. Il habitait dans quel pays? Enfin, il gouvernait plutôt quel pays? Habasha. La terre de Habasha. Et aujourd'hui, Habasha, c'est barakallahu fik, c'est l'Éthiopie. Et déjà, petite parenthèse, enfin, il ne faut pas démarrer les parenthèses pour faire les deux juz, mais nécessaire la parenthèse, on réalise le verset « Watil kal ayyamu » Nudawiluha bayna an-nas. Lorsqu'Allah explique dans d'autres versets que Allah Rabbul Izzah accorde l'honneur à qui il veut et les jours changent et les personnes qui ont le pouvoir changent. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah donne la royauté à qui il veut, il en reprend de qui il veut. C'est-à-dire qu'il y a des époques, il y a des périodes où il y a des nations qui sont dominantes. Et ce sont eux qui ont une certaine influence sur le monde, sur le plan économique, soit par rapport à leur armée également, leur capacité à se défendre ou à attaquer, ils sont respectés. Et ensuite, leur puissance, leur richesse disparaît, se dégrade jusqu'à disparaître, jusqu'à devenir tout à fait anonyme. Et ce seront d'autres pays comme on appelle des pays émergents et qui vont prendre le flambeau, qui seront au devant de la, en guillemets, de la scène internationale. Ben, à cette époque, lorsque le prophète Ali salat wa salam a été envoyé, donc il est devenu prophète, à cette époque, l'Abyssinie était un pays riche. L'Éthiopie, c'est dans quel continent? Bien sûr, merci. En Afrique. Donc, l'Afrique n'a pas toujours été pauvre. Après, comment elle s'est appauvrie, ça c'est une autre histoire. D'accord? Allahumma musta'an. Et donc, le Négus était le roi de ce pays, donc l'Abyssinie, et c'était un pays où la population était de confession chrétienne. Quelle était la relation entre les musulmans péninsule arabe, Din, Millat Ibrahim, et une religion qui était celle qui a précédé l'islam, la religion catholique? Comment est-ce qu'il peut y avoir un échange, un rapport entre eux? Alors le lien c'est quoi? Le lien c'est ce qu'Allah, Rabbul Izzah, a mis dans le cœur du prophète alayhi salat wa salam pendant la période mécoise, lorsqu'il y avait trop de difficultés à pratiquer la religion, et que ces difficultés ne se limitaient pas à des décrets, ça ne se limitait pas à des lois que le Quraysh votait, ça allait jusqu'à l'atteinte sur les personnes. Il y avait donc des persécutions, il y avait donc des familles entières qui étaient décimées, qui étaient assassinées par rapport à leur appartenance à l'islam. Et lorsque il était devenu difficile pour beaucoup de croyants à Mecca de vivre leur religion, le prophète alayhi salat wa salam va ouvrir une porte pour les musulmans volontaires, ceux qui veulent aller émigrer en Abyssinie. Pourquoi l'Abyssinie? Pourquoi le prophète a choisi l'Abyssinie? C'est parce qu'Allah met dans son cœur. C'est Allah qui met dans le cœur du prophète alayhi salat wa salam de donner cette directive aux sahaba. Et il y a eu combien d'émigrations vers l'Abyssinie? Il y en a eu deux. Il y a eu un départ avec peu de gens, un retour prématuré, avec une fausse rumeur que les Quraysh étaient convertis, et ensuite un nouveau départ avec beaucoup plus de personnes, et entre autres il y avait Ja'far radiallahu anhu, qui était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallam avait demandé aux musulmans d'aller en Abyssinie parce que là-bas régnait un roi chrétien qui était juste. C'était quelqu'un qui vivait la religion, qui avait les qualités de iman. Même s'il n'était pas mu'min, il avait des qualités. Le prophète, vous savez que c'était un homme honnête et de confiance. Et quelle plus grande preuve d'honnêteté que lorsque les Quraysh ont su que les musulmans s'étaient établis, que certains musulmans s'étaient établis en Abyssinie, ils avaient trouvé refuge et que le roi, le Négus, les avait accueillis et que là-bas, ils commençaient à pratiquer leur religion librement, cette situation ne les a pas plu. Ça veut bien dire que ce que les Quraysh reprochaient aux mu'mines, ce n'était pas uniquement le fait aux musulmans, ce n'était pas uniquement de vivre une nouvelle religion. Ils voulaient qu'ils adorent les pierres et les idoles comme eux. Autrement, si dans un groupe, dans une classe par exemple, j'ai deux élèves qui me posent problème, enfin les deux, oui, ces deux-là, ils me posent problème, Ismaïl un peu moins, lui beaucoup plus. Si j'ai deux élèves cadets aussi, si j'ai trois élèves qui me posent problème, d'accord? Et que du coup, problème de discipline sans arrêt. Que du coup, il me dit que voilà, on déménage, on va habiter au Camélia, mais on va habiter à un peu plus loin, s'il vous plaît, Saint-Pierre ou Saint-Louis. Ben, je suis content, oui, non. Le problème, c'est éloigné. Je ne vais pas aller les chercher là-bas pour dire, oh, le directeur, ils sont comme ça, ramener les moins. Au contraire. C'est-à-dire que les Quraysh, eux, quand ils ont vu que les musulmans sont partis, ils n'étaient pas satisfaits de la situation. Ils voulaient vraiment du mal. Ils voulaient vraiment faire du tort à ces personnes. Théoriquement, une partie du problème est déplacée, ça devait les arranger. Mais non, ils sont partis voir le Négus pour essayer de le convaincre de renvoyer les musulmans à Mecca. Et comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Ils ont amené des cadeaux, des présents. Ils ont amené des cadeaux, ils ont essayé donc de corrompre le Négus. La corruption, ça existe depuis très longtemps. Hein, d'accord? On n'a rien inventé. Ils vont essayer de toucher la sensibilité du Négus sur son attachement à la religion catholique. Ça veut dire que les musulmans critiquent Jésus, Isa alayhi salam. Et là, le Négus était un peu perturbé parce qu'il avait fait confiance à ces musulmans sans vraiment connaître le fond de la religion musulmane. Et donc, il va convoquer les musulmans, et le chef de délégation des musulmans, c'était Ja'far radiallahu anhu. Et Ja'far radiallahu anhu a récité les versets du Coran qui vantent les mérites de Isa alayhi salam. et le négus Najashi étaient parfaitement et totalement convaincus de la véracité de ses paroles et du bien fondé de ce qu'il était en train de lire. Il a reconnu qu'il y a quelque chose de spécial à cette lecture, mais qui le réconfortait. Et du coup, ça montrait bien qu'il n'avait aucunement mauvaise pensée, une mauvaise opinion sur Issa alayhi salam, comme les Quraysh étaient venus donc le mettre en garde. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la désinformation. Je dis, c'est pas nouveau tout ça. Ça a toujours existé. Quand aujourd'hui on parle de désinformation des médias et d'islamophobie, l'islamophobie a existé depuis le début de l'islam. Et la désinformation était une technique, même si c'était pas par voie de presse, mais ça se pratiquait couramment. Donc là, ils vont voir une personne qui leur accorde de l'hospitalité pour leur dire, attention, ce sont des ennemis. C'est des personnes qui vont causer du tort, qui vont corrompre ta population. Des paroles qui sont entièrement fausses. Les Quraysh, quand ils vont dire ça, ils savent que c'est pas vrai. Et là, Ja'far radiallahu anhu rectifie et donne l'information. En commentaire, en parenthèse, les savants disent qu'il ne faut jamais baisser les bras face à la désinformation. Il ne faut pas se dire que ben, y a trop de gens qui disent plein de choses, les médias, il faut les laisser parler et tout. Non. Il faut toujours être capable de rectifier et d'apporter la vérité, parce que dans notre dîn, il y a le haq, il y a une lumière. Et la lumière doit être propagée. Et la lumière doit couvrir cette obscurité, qu'on pourrait même appeler de obscurantisme, qui est entretenue par certaines personnes. Donc toujours répliquer, toujours montrer le vrai visage de notre religion, et ne pas laisser le ba'atil, ce qui est faux, se propager. Et donc, il y a eu donc un attachement entre le prophète alayhi salat wa salam et le Najashi. Ibn Kathir rahimahullah relate une visite du Najashi, et lors de cette visite, il a vraiment ressenti l'attachement à l'islam, et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager Mohammed, tu vois leurs yeux débordés de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent, ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité? Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? Donc ça montre la proximité qu'il y avait entre eux et les musulmans. Et An-Najashi s'était converti à l'islam. Et lorsqu'il est décédé, dans son pays, en Abyssinie. Le prophète alayhi salatu wassalam avait une telle reconnaissance et un tel attachement pour ce personnage qu'il a officié salat alal ra'ib. Ça, c'est une façon spécifique. La salat janaza était officiée à Madina alors que le corps du négus était en Abyssinie. Il a prié pour lui en son absence. Et en commentaire, bon, on va pas s'étaler dans les commentaires. En conclusion, Sa'di rahimahullah dit: وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كالنجاشي وغيره ممن آمن بهم ممن آمن منهم. Ce verset concerne le négus, mais toute personne de confession chrétienne qui s'était convertie auprès du prophète صلى الله عليه وسلم. Et il dit: وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار دين الإسلام. Et si on analyse le plus de conversions qu'il y a à notre époque, ce sont des personnes de confession chrétienne qui reconnaissent la vérité dans l'islam. Et si on remontait quelques versets avant, Allah Azza wa Jal nous rappelle: وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Ce verset rappelle la proximité qu'il y a entre les chrétiens et les musulmans. Beaucoup de points communs. Et une qualité essentielle, c'est la présence de personnes qui s'isolent, rahbaniyin, qui s'isolent pour l'adoration de Dieu, ce qui fait que dans leur quête de spiritualité, leur cœur n'est plus habité par l'orgueil, contrairement à d'autres, ce qui fait que ils ont une plus grande faculté à voir et à reconnaître la vérité. Ce n'est pas pour rien si à la fin des temps, musulmans et chrétiens vont s'unir dans les grands événements de Ashrat al-Sa'a al-Kubra, dans les grands signes du Qiyamah. On passe au juz suivant. Avant de lire la traduction, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى. Ce verset concerne les Quraysh cette fois-ci. Les Quraysh et leur refus de croire en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'ils savaient pertinemment, ils n'avaient pas l'intention d'accepter le haq, même s'ils savaient que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait, c'était là la vérité. Qu'est-ce qui les empêchait d'accepter l'islam? L'orgueil, un. La fierté, deux. Et la crainte de perdre des intérêts ou de perdre des acquis. Le fait que ces Quraysh étaient les responsables des grandes idoles à Mecca, ça leur donnait une place et une certaine notoriété dans toute la péninsule arabe. Pourquoi? Parce que les Arabes de toute la péninsule, d'accord, ils venaient accomplir le Hajj à Mecca. Les Quraysh étant responsables de ces idoles, ils étaient donc les patrons vraiment. Et les gens les respectaient parce que c'était eux qui étaient responsables des idoles et responsables de la Kaaba. Ils savaient pertinemment qu'en reconnaissant ce prophète, il n'y aurait plus d'idoles autour de la Kaaba et ils perdraient également cette notoriété. Et tout ça a fait que certains d'entre eux n'ont pas accepté la vérité, pas parce qu'ils n'étaient pas convaincus, non. Le message, ils savaient que c'était un message de vérité. Ce n'est pas non plus qu'ils n'étaient pas convaincus par l'homme, par l'individu, bien au contraire. C'est eux-mêmes, ces Quraysh, qui l'avaient surnommé Al-Amin, Younou, l'homme honnête, l'homme de confiance. Pour eux, la meilleure personne à Mecca, c'était lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il fallait replacer la pierre noire après la reconstruction de la Kaaba et que c'était le prophète qui était entré dans la mosquée, on connaît l'histoire de cet événement, ils étaient tous contents que ce soit lui. Parce qu'ils savaient que lui, c'était un homme honnête et juste. C'était vraiment la personne exemplaire à Mecca. Et du jour au lendemain, il passe du surnom Al-Amin à Sahir, à sorcier, menteur, kazzam, et les pires des choses. Et il le déclare ennemi public de Mecca parce qu'il a apporté donc un message. Donc, ce n'était pas le message qu'il détestait, ni l'individu, c'était cette fierté, cet orgueil et la crainte de perdre leur place parmi les Arabes. Donc, à un moment donné, ils ont demandé au prophète sallam, amène-nous des preuves évidentes. On veut des grands miracles. Et si on a vu ces grands miracles, on va accepter l'islam. Mais dans leur cœur, ils savaient pertinemment que même s'ils avaient vu ces miracles, ils n'auraient pas accepté. Et là, Allah Azza wa Jalla leur donne une leçon pour qu'ils comprennent que ce n'est pas qu'ils veulent ou ils ne veulent pas. Ce n'est pas quand ils se décident d'accepter ou non. C'est la guidée dans les mains d'Allah. Et s'ils ne viennent pas, c'est qu'Allah n'a pas décidé. Allah a vu qu'ils n'ont pas les qualités pour accepter cette religion de vérité. « Walau annana nazzalna ilayhimul malaika wa kallamahumul mawta wa hasharna alayhim kulla shay'in qubula ma kanu liyuminu » ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Et si nous faisions descendre les anges vers eux, entre parenthèses, comme ils l'avaient proposé, c'est ce qu'ils avaient demandé au prophète sallam. Si les morts leur parlaient et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut. Même s'ils avaient vu ces signes, n'avaient-ils pas vu la lune se fendre en deux? Mais ça n'a pas été un motif de guider pour eux. Mais la plupart d'entre eux ignorent, après il y a un autre passage sur les ennemis, qu'Allah a décrété que dans toutes les prophéties il y a des ennemis, mais ça, on va s'arrêter à là, on va regarder cette première partie. Donc ces mouchriquins avaient fait qasam, la inja'atuhum ayatun la yu'minanna biha, que si il y avait des signes et des signes évidents, ils auraient cru, mais intérieurement ils savaient qu'ils n'allaient pas croire. Et Allah Rabbul Izzah, donc comme on a dit tout à l'heure, leur rappelle que c'est pas question qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, tout est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Et bal qad yakunu al man'u min ijabatihim aslahu lahum. Allah n'avait pas exaucé leur demande de voir les anges en personne venir descendre et témoigner que nous sommes les anges et qu'il faut adorer Allah. Et le commentaire Saadi dit, et il y avait un bien pour eux dans le fait qu'Allah n'ait pas exaucé leur demande. Fa inna Allah jarat sunnatuhu, que dans la sunnat d'Allah, dans sa façon d'agir avec les peuples, lorsqu'un peuple réclame un miracle et Allah envoie ce miracle, s'ils ne croient pas, ils étaient immédiatement détruits, anéantis. Et c'est pour ça que leur demande extravagante, on pourrait dire, N'était-il pas dans le pouvoir d'Allah de les exaucer? Sans le moindre doute. C'est Allah le même Rabb qui a ouvert la mer pour Moussa alayhi salam. Oui ou non? C'est Allah azza wa jal, c'est le même Rabb qui a protégé Ibrahim alayhi salam du feu et tant d'autres miracles. Allah a décidé que pour eux, il n'y aurait pas ces choses extraordinaires. Parce qu'autrement, ils auraient été entièrement détruits et anéantis. Mais ne réalisaient-ils pas qu'ils avaient le plus grand miracle des révélations avec eux, auprès d'eux, c'était le Coran, la parole d'Allah, et ils étaient les mieux placés. En tant que spécialistes de la langue arabe, ils étaient les mieux placés pour savoir que c'était une parole de vérité, mais malgré ça, malgré qu'ils ressentaient cette vérité, ils s'en détournaient par fierté et par orgueil. Naam. Puis juste, si vous me permettez, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا, ça c'est important pour nous, pour qu'on comprenne le fonctionnement, c'est ce qu'on appelle la sunnah d'Allah, comment Allah agit avec les gens. On aurait pu se dire, mais pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas donné la guidée à Abu Lahab, et à Abu Jahal, et à Abu Talib, dès le début? Si ces trois, on va dire, ces trois personnes qui étaient respectées à Mecca, ces trois chefs à Mecca, s'ils avaient eu la guidée, ben, sans le moindre doute, le reste de la population les aurait suivis, oui ou non? Mais Allah Azza wa Jal décrète que les choses ne se passent pas comme on le souhaite, mais comme lui, il le prédestine dans sa sagesse. Et Allah connaît mieux son organisation. Et donc, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوَّ, ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ, des diables d'entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Là, on a encore la volonté d'Allah. Si Allah avait voulu, les Quraysh auraient accepté. Et si les Quraysh avaient vu tous les miracles, ils n'auraient pas accepté l'islam tant qu'Allah ne le voulait pas. Et là, on a la même chose que si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Et ce verset est extrêmement intéressant parce qu'on peut vraiment l'appliquer dans notre lecture du monde. Avec, parfois on s'étonne, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'acharnement contre l'islam? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de désinformation? Pourquoi est-ce que nous sommes toujours ciblés par les médias ou par plein de choses, d'accord? Ben, il faut savoir qu'à l'époque du Prophète, il y avait déjà ce problème. À l'époque de Moussa, il y avait ce problème. Qui était le problème pour Moussa? Pharaon. À l'époque d'Ibrahim, à l'époque de tous les prophètes, Allah avait envoyé des personnes qui s'opposaient à leur mission et qui les empêchaient d'avancer de leur mission. Mais c'est ce même Rabb qui envoie Moussa alayhi salam et c'est le même Rabb qui crée Pharaon pour lui causer des problèmes et des soucis. C'est-à-dire qu'Allah organise les choses de cette façon. Donc quand tu vois une opposition, quand tu vois des paroles, tu entends des paroles qui t'attristent, quand tu vois une situation qui te perturbe, pourquoi autant de haine et d'acharnement contre ma religion? Pourquoi? Comprends que ces personnes qui sont en train de bouger, c'est là la volonté d'Allah. Et c'est là l'épreuve. Et c'est de cette façon qu'Allah voit les personnes qui sont sincères et fermes dans leur foi. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde la fermeté de la foi, qu'Allah nous accorde cette ouverture d'esprit, qu'on arrive à comprendre l'organisation du monde comme Allah l'a voulu et qu'on ne se suffit pas à une lecture qui est limitée à nos yeux et à notre entendement et par rapport à ce que les médias nous véhiculent, mais qu'on ait cette vision qu'Allah nous a révélée, qu'on comprenne que tout est dans les mains d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah donne les qualités dans ce contexte extrêmement difficile de pouvoir donner la meilleure image de nous-mêmes, la meilleure image de l'islam à travers notre comportement, bien sûr, à travers nos paroles, à travers nos faits et gestes, dans nos relations professionnelles, familiales, que nous soyons vraiment des modèles de islam pour que nous soyons des asbab de hidayah, des intermédiaires de guider. Allahumma amin wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.